Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans Dialectique. Nous sommes en direct sur RCN 90.7. Quel plaisir de vous retrouver comme tous les vendredis à 13h sur RCN. Et aujourd'hui dans Dialectique, vous n'êtes pas sans savoir que notre studio est situé sur ce beau plateau, ce beau quartier historique de Nancy, le quartier du Haut-du-Lièvre, communément aussi appelé le plateau de Haye. Et donc aujourd'hui, on va parler de ce quartier, on va parler un peu des activités, de ce qui s'y passe, et d'un atelier qui est central, qui est au cœur du lien social dans ce quartier. C'est l'atelier Vie de quartier du plateau de Haye. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Larbi. Bonjour Larbi.
Bonjour Lionel.
Bienvenue sur nos antennes.
Bonjour, merci de nous inviter.
En tout cas, c'est un plaisir pour nous de savoir que tu as accepté cette invitation. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer ce en quoi consiste exactement l'atelier Vie de quartier et comment il fonctionne au sein du plateau ?
Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que les ateliers de vie de quartier, il y en a, il me semble, 7 ou 8, je crois, dans tout l'agglomération de Nancy, c'est-à-dire par quartier, Haussonville, Rive de Meurthe, Plateau de Haye, etc. etc. Et la particularité de cet atelier de vie de quartier, en tout cas ce qui concerne le Plateau de Haye, c'est bien sûr, en fait, on a tous le même rôle. Le nôtre, il est un petit peu, on va dire, un petit peu détaché des autres ateliers de vie de quartier, parce qu'on, disons qu'on va gérer plus différemment, on va dire, que les autres ateliers de vie de quartier. Mais donc, on est au cœur du projet du plateau de Haye, sur le nouveau PLU qu'il y a, avec les nouveaux habitations qui va y avoir, entre le rénovement du Cèdre Bleu, du Tilleul Argenté, et d'accueillir de nouveaux habitants prochainement, puisque les travaux, en tout cas du Cèdre Bleu, je pense pour avril, mai, ils vont commencer à recevoir les premiers habitants. Donc on est au cœur de tout ça, et on essaie d'être force de proposition afin d'avoir un quartier pas que nouveau dans les murs, dans ce qui ressort, en tout cas des nouveaux bâtiments qui vont essayer qui sortent de terre et tout, mais aussi nouveau dans l'accueil de nouveaux habitants, de pouvoir avoir une vraie mixité sociale. Et puis que ce quartier aussi soit beaucoup plus attractif au niveau des commerces, etc. Donc on est au cœur de tout ça et on essaie d'être force de proposition. C'est un peu compliqué,
Qu'est-ce qui est compliqué justement là-dedans ?
Alors, ce qui est compliqué, c'est que, je peux pas dire qu'on fait pas de la politique, on en fait à partir du moment qu'on est attaché à un quartier qu'on essaie de contribuer au bien-être du quartier, on peut dire qu'on fait un peu de politique, mais je pense que on est quand même totalement hors sol par rapport à la vision que peut avoir des élus, que ce soit l'ancienne équipe ou la nouvelle équipe. On a une façon de voir les choses qui sont totalement différentes. Donc,
Quelles sont les divergences dans l'approche, dans la façon de voir les choses ?
Eh bien, ce qui est différent, c'est que, en tout cas, moi, personnellement, parce que je veux pas attacher mon avis à tout ce que peuvent penser mes autres collègues de l'atelier de vie de quartier, mais en ce qui me concerne, ce qui est différent, c'est que on a l'impression que c'est compliqué pour eux. Il y a certaines choses qui sont compliquées pour eux. Ce qui est compliqué, c'est par exemple, on a l'impression, j'ai l'impression, et je l'ai avec tout le temps, ça fait quand même, j'ai 50 ans, et ça fait 50 ans que j'habite dans le quartier. Donc j'ai quand même assez de recul et de voir avant, l'après. Ce que je veux dire par là, c'est que on a l'impression quand même que c'est très compliqué pour eux de mettre en place certaines choses telles que avoir la vraie mixité sociale. Alors moi, quand je parle de mixité sociale, c'est que je me dis que quelque part, dans ce quartier-là, il n'y a que des personnes ou issues, pas forcément issues que de l'immigration, mais des personnes qui sont ou sans emploi, au RSA. Et moi, je pense qu'on ne peut pas créer une vraie richesse dans ce quartier s'il n'y a pas une mixité, mais une véritable mixité, mais la véritable mixité sociale. Des gens qui travaillent, des gens, des cadres. On a un beau quartier, tout le monde le dit. Enfin, je ne sais pas s'ils y croient ou pas, mais en tout cas, moi, j'y crois. Je pense qu'on a un excellent quartier. Et la preuve est que beaucoup de gens ne veulent pas le partir d'ici. On peut leur donner ce qu'ils veulent, ils ne veulent pas partir d'ici. Et ce qui complique aussi la tâche, peut-être aussi à l'OMH, à l'OH, puisque c'est le seul bailleur ici, dans ce quartier.
Le bailleur principal
du quartier. Ouais, c'est que peut-être, je veux quand même leur rendre un petit peu hommage, parce que leur tâche n'est pas évidente, c'est pas facile pour eux, certes, mais je pense qu'on devrait trouver des alternatives et je pense qu'il y en a. J'avais proposé donc au maire de Nancy et j'avais proposé à d'autres élus, c'est que aussi créer aussi de la mixité de bail. Pourquoi il y aurait qu'un bailleur? Il faudrait qu'il y ait aussi beaucoup plus de bailleurs dans ce quartier. Donc à faire arriver des.
Qu'est-ce que
des,
ça pourrait créer ça, le fait qu'il y ait d'autres bailleurs?
Bah je pense que c'est des politiques différentes. Je pense que chaque bailleur a une politique différente. Donc déjà, avoir le fait d'avoir d'autres bailleurs, c'est des politiques différentes, des approches différentes. Ça peut être aussi une porte qui peut ramener à créer des appels à de nouveaux arrivants qui issus de tout bord social. Voilà.
Donc, pour toi, ce qui manque aujourd'hui dans ce quartier, parce qu'il y a eu déjà pas mal de rénovations, on a vu des immeubles tomber, d'autres, des habitations poussées. Je pense par exemple au Blanc Sycomore, je pense au Être Pourpre, je pense aux habitations qui ont poussé il y a à peu près 10 ans derrière le secteur de la Poste, pour ceux qui connaissent le quartier. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a eu quand même des changements. Alors, on a vu arriver aussi des étudiants dans le quartier. Pour toi, c'est pas encore assez.
Alors, déjà, on a vu arriver des étudiants. Moi, je trouve la politique d'étudiants, quand il y avait des étudiants qui arrivaient, parce que là, aujourd'hui, ou actuellement, ou dans les années qui juste là derrière, là, dans les années 2000, il n'y a pas d'étudiants qui venaient arriver et qui venaient sur le quartier du Hay. Il y a eu une politique d'étudiants qui était menée par André Rossino, le maire André Rossino, ancien maire de Nancy, ancien président de la métropole, à qui je rends hommage d'ailleurs, parce que pour moi, ça a été un grand maire. Il a fait cette politique-là, et je trouve qu'elle a extrêmement bien marché. Elle a vraiment ramené une mixité, et je pense que tout le monde en a tiré profit, que ce soit les associations, que les étudiants eux-mêmes, tout le monde en a tiré profit. Je me souviens, à l'époque, j'étais membre du conseil d'administration de la MJC du Haut-du-Lièvre et les étudiants venaient donner des cours de soutien scolaire à nos enfants et c'était une richesse pour nous, ça. C'était nouveau et puis ça, tout le monde en tirait parti. Et le même André Rossino qui avait décidé de mettre des étudiants sur le plateau de Hay a décidé de changer cette politique et il a redescendu les étudiants à proximité des facs. C'était peut-être pour leur bien, eux, etc., qui aient une vie étudiante peut-être au centre-ville. Bon, ça, je le regrette un petit peu. Mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, le plateau de Hay est riche d'étudiants. Ce n'est pas véritablement vrai.
Pas riche, mais en tout cas, il y a eu une arrivée. Voilà, il y a une dizaine d'années, on a vu une vague d'étudiants arriver.
C'était entre 95 et 98.
Et même après, on a, je pense aux constructions près du stade d'Arnis, il y a eu une vague d'étudiants à un moment donné qui est arrivée dans ces nouveaux bâtiments-là.
Oui, alors ce qui est marrant, en fait, et ce qu'on a remarqué, en tout cas moi ce que j'ai remarqué, c'est que toutes les personnes qui habitaient au stade d'Arnis, etc., on avait l'impression qu'ils étaient tellement isolés du plateau qu'en fait, qu'ils ne voyaient pas la vie qu'il y avait. En fait, c'est comme s'il y avait le stade d'Arnis et le vrai plateau de Hay, alors que le plateau de Hay et le stade d'Arnis ne font qu'un, mais comme s'il y avait deux vies, en fait. Et les personnes qui habitaient au stade d'Arnis, c'était chez eux, et puis où ils allaient à leur travail, ou centre-ville, etc. Mais ils étaient extérieurs, donc ils ne participaient pas. C'est-à-dire que même dans les MJC ou dans les centres culturels ou les Francas, etc., dans les associations, on ne voyait pas trop. On n'en voyait pas trop. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, mais on ne voyait pas trop. C'est-à-dire ces nouveaux habitants participaient à la vie. Et ça, je le regrette un petit peu. Donc, c'est comme si ça avait créé deux quartiers, en fait, différents.
Et là, aujourd'hui, quels sont les principaux objectifs de l'atelier Vie de quartier?
Alors, les principaux objectifs sont Monsieur le Président Abdelatif, enfin Tifa, vous aurez dit
ouais, qu'on salue.
Sur moi, ouais, vous aurez, ouais, que je salue exactement, c'est que aurait dit exactement la même chose. Il le dit souvent et avec ses propres mots, c'est qu'on tourne en rond. On tourne en rond parce qu'on répète les choses. On répète les choses et ça devient usant, on se fatigue un petit peu parce que on aimerait bien avancer et comme on répète les choses et puis on se dit, on s'attache vraiment à ce qu'on, à qu'on puisse régler ben, les premières problématiques qu'on a posées sur feuille en disant voilà, il faut nous régler ça, 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 ça. Et en fait, tant qu'on n'a pas réglé ça, ben, nous on lâche pas, donc on se répète, on se répète. Et on espère qu'on sera entendu. On espère qu'on sera entendu. En tout cas, on va rien lâcher. On a d'ailleurs, pour tout vous dire, avec l'atelier de vie de quartier, on a décidé de rencontrer tous les élus de tous bords politiques pour leur parler du projet du plateau 2. Donc, vous voyez bien quand même que on y croit tellement.
Tout bord sans exception.
Voilà, à tout bord, sans exception. Le seul, pour le moment, qu'on n'a pas encore décrit, on se dit, est-ce qu'on les reçoit ou on les reçoit pas? Apparemment, on se dit, on devrait les recevoir aussi. C'est même le Front National. J'ai dit, bon, ben voilà, c'est une discussion. Voilà, si demain, par exemple, le Front National devait passer dans notre ville, ben, on serait obligé de cohabiter avec eux. Donc, qu'est-ce que vous voulez construire pour ce plateau de haie? Comment vous voyez la politique ici?
Et pour l'instant, on n'a pas eu de rendez-vous avec eux.
Alors, pas encore. On a rencontré Laurent Hénard. On a rencontré Laurent Hénard il y a moins d'une semaine avec Tifa. On a discuté autour d'un café au Cheval Blanc. Et c'était une discussion très sympathique, très cordiale. Il a été très honnête. Il ne nous a pas fait de grandes promesses, mais ce n'était pas le but non plus. Le but, c'était les questions, c'était de lui dire comment on voyait la politique actuelle. Qu'est-ce qui, voilà, comment vous aurez fait les choses, comment, différemment, de quelle manière. Et donc voilà, c'était intéressant et on attend, donc on va rencontrer aussi donc normalement la France Insoumise, la LFI, on va rencontrer le PC, les écologistes. Donc voilà, on fait les choses petit à petit, on veut savoir quels sont leurs projets aussi. On sait un petit peu le projet qu'ont les élus actuels. On est satisfait de certaines choses avec lesquelles on a fait avec eux. On va pas tout jeter, c'est pas le but. Il est hors de question de cracher sur qui que ce soit. On est heureux que le maire Mathieu Klein ait, par exemple, juste pour donner un exemple, refait le stade Mjid Tigazoui. Il nous a fait
un hommage.
C'est magnifique, mais il fallait le faire. On s'est battu pour ça.
La demande venait de la VQ, de la télévision de quartier.
Non, la demande venait du président Monsieur El Abassi Foued,
président donc du club de
foot.
Oui,
avec son conseil d'administration. Je vais pas tous les citer, mais son président et puis tout le staff qui est autour. Et c'est aussi une demande aussi parce que le président quand il fait une demande, c'est parce que c'est aussi une demande des adhérents. Des adhérents du club qui travaillaient dans un stade qui était en totale fin de vie, qui était pas très sécurité pour nos enfants parce qu'il faisait mal. Le synthétique était posé à même sur du dur. Il y avait pas cette mousse, enfin bon, parce qu'il date de
c'est un synthétique,
voilà, c'est vraiment
ancienne génération.
Vraiment ancienne génération. Donc là aussi, on voit bien quand c'est encore entraîné hier dessus, c'est plaisant. Et puis on le remercie aussi, je remercie le maire d'avoir donné le nom du stade, changer le nom du stade, en rendant hommage à un cadre de ce club, Mjid Tigazoui. Et donc, tout n'est pas acheté. C'est pas ça. Mais je pense qu'il y a des ratés. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites différemment. Je pense qu'il faut qu'ils soient à l'écoute. Je pense qu'on ne peut pas rester, aucun élu ne peut rester fermé sur ses idées parce que des fois, très souvent, les plus têtus en ont payé le prix. Et je vais citer Laurent Hénard. Je pense que Laurent Hénard a été fermé pendant un moment. Et puis, je pense qu'il en a payé son élection.
Donc aujourd'hui, toi, ce que tu pointes, c'est peut-être un manque de communication.
Franchement, ouais, il y a un manque de communication totale. Je pense que on a nos élus de terrain, pour certains, je trouve qu'ils sont déconnectés parce qu'on voit pas la même chose. Donc c'est ça que j'appelle déconnecté. Quand on voit pas la même chose, alors on peut pas dire qu'ils sont pas souvent sur le quartier, ils sont souvent dans le quartier. Et justement, c'est ça qui est dommage. C'est parce qu'ils sont souvent dans le quartier que je leur donne pas d'excuses. Parce que s'ils venaient pas, on leur reprocherait ça. On leur dit, mais vous venez. Mais non, ils viennent, ils sont là. Ils sont tout le temps, quasiment là.
Et ce que tu dis là, c'est un constat personnel ou c'est un constat partagé dans l'atelier Vite Quartier ?
Alors sincèrement, c'est un constat qui est en grande partie totalement partagé par l'atelier Vite Quartier. Le fait que de se répéter, le fait, voilà, ça c'est totalement partagé. Ouais. Et oui, là franchement, je vais le dire, il y a une petite déception. Mais on n'est pas découragé. On pense que ouvrir le dialogue... Tout se fait avec le dialogue. Donc il suffit de temps en temps de baisser garde et dire bon bah voilà, discutons. Voilà, expliquez-nous. Et puis même s'ils n'étaient pas d'accord avec nous, qu'ils nous expliquent les raisons pourquoi ils ne sont pas d'accord avec nous. Pourquoi ils veulent...
Concrètement, c'est quoi les points de divergence aujourd'hui ? Sur quel aspect, globalement, sans forcément rentrer dans les détails, mais globalement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous n'avancez pas avec la même vision ?
Alors, il y a plein de sujets. Il y en a beaucoup. Comme vous dites, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon, il nous faudrait beaucoup plus qu'une émission. Mais globalement, l'emploi. Ouais, on s'intéresse beaucoup à l'emploi. Nos jeunes, aujourd'hui, ils ont du mal à trouver un stage. Vous vous rendez compte ? C'est grave quand même. Je trouve que ne serait-ce qu'un stage,
Qu'est-ce qui empêche de trouver un stage aujourd'hui ?
Très souvent, ce qui existe malheureusement en France, la discrimination des adresses, la discrimination peut-être, je ne sais pas moi, des noms, je ne sais pas, ce que j'arrive pas à comprendre. Par exemple, sur le plateau de Haye, il y a des entreprises qui sont installées ici. Et ils ont des avantages à être installés ici. Mais normalement, il y a une contrepartie.
Quel genre d'avantages ces entreprises ?
Ils payent moins de charges, ils ont des loyers qui sont très modérés du fait que c'est un quartier ZUP. Et donc, ce genre d'avantages. Et en fait, normalement, il y a une contrepartie.
Et quelle était la contrepartie ?
Les contreparties, c'est de, par exemple, favoriser l'embauche à des jeunes du quartier, par exemple. Former des jeunes du quartier.
Jeunes, d'ailleurs.
Jeunes et moins jeunes, bien sûr. Oui, jeunes et moins jeunes. Et ça ne marche pas. Et on a l'impression qu'ils sont démunis, ils n'y arrivent pas. Et ça, on a pointé du doigt et ça ne marche pas. La sécurité. On trouve qu'on n'est pas en sécurité partout dans le quartier. Vous m'avez tout à l'heure en off, vous m'avez parlé des émeutes. Et il y a rien qui arrive comme ça. C'est un enchaînement de choses. C'est des enchaînements de choses qui ramènent à ce genre de situation.
Des émeutes, est-ce qu'il y a c'est un quartier selon toi ou selon l'atelier Vite Quartier où il y a de la violence ?
Est-ce qu'il y a de la violence ? Alors, vous savez, la violence, elle n'est pas forcément physique. Elle est visuelle, la violence. Elle est verbale et elle est environnementale. L'environnement, quand on voit des gens qui vont jusqu'à même à jeter des choses par les fenêtres, c'est une violence. C'est une violence.
Qu'est-ce qui pousse ces gens à agir comme ça ?
Je dirais qu'encore une fois, et c'est pour ça que je ramène toujours ça, moi, à avoir une vraie mixité sociale, je pense que ramener toute la misère sociale dans un même quartier, je trouve que c'est une mauvaise idée. Ils n'assument pas, quand je le dis, ils n'aiment pas. Quand je dis ça, ils n'aiment pas trop.
Bah parce que le terme de misère sociale, c'est quand même péjoratif, puisque les gens sont riches de leur culture, riches de leur parcours, de leur expérience.
Oui, mais bien sûr. Mais
misère sociale, le terme est peut être insultant même. De parler de misère sociale en parlant de personnes du quartier.
Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête de cacher les mots et d'appeler un chat à un chat. Et ça me fait, moi, le premier mal d'utiliser ses propres mots. J'aurais voulu prononcer d'autres mots, mais à un moment donné, voilà, on peut pas se cacher derrière les choses et
donc,
derrière les mots.
Ce que vous voyez dans ce quartier, c'est principalement la misère sociale, mais c'est l'aspect qui ressort le plus.
Il y a beaucoup de chômage dans ce quartier. J'ai pas les sondages avec moi, mais je pourrais. C'est pas un secret. Il y a énormément. Et pourquoi ? Alors justement, pourquoi il y aurait autant de chômage dans ce quartier et pourquoi pas dans un autre ? Pourquoi il y aurait plus de chômage au plateau de Haye, pas à Rive-de-Meurthe ? Est-ce que vous avez une réponse? Moi, je pense que, et c'est là qu'en fait, je pense que quand même, c'est peut-être une volonté politique. Et moi, je trouve que c'est une mauvaise volonté politique de vouloir engranger dans un même endroit
les personnes peut-être les plus démunies.
Toutes les plus démunies, voilà. Et c'est pas ça. Parce que justement, tout le monde pourrait tirer, parce que vous avez parlé de richesse, bien sûr qu'ils sont riches. Ils sont riches de leur culture. Parce qu'il y a toutes les nationalités ici. Il y a toute une nationalité. Et ça, c'est une richesse. Et c'est
y a
même
des
la
talents.
Plus grande. Et il y a des talents, mais bien sûr.
Il y a beaucoup de talents dans ce quartier.
Et il n'y a pas que des échecs dans ce quartier. Il y a des gens qui sont sortis ingénieurs. Il y a des gens qui sont sortis artistes de ce quartier. Je ne sais pas si vous connaissez l'artiste Kikessa.
Bien sûr.
Il est.
Oui, c'est pas le seul.
Voilà. Donc voilà. Quand on a un quartier d'ici qui fait l'Olympia, qui fait les Zénith, ça fait plaisir. Et bien sûr qu'il y a de la richesse. Donc oui, il y a de la richesse. Mais ça n'explique pas tout et ça n'autorise pas tout. Et ça n'autorise pas tout, surtout aux élus, parce que tout, pour moi, tout est volonté politique. Et si on va encore une fois trop loin, parce que ne serait-ce que. Déjà, on ramène, encore une fois, comme je l'ai dit, on ramène de la misère sociale. On concentre de la misère sociale dans ce quartier. Et puis en plus, on leur donne la vie qu'ils méritent. C'est-à-dire que pas de sécurité. Les transports, par exemple, alors qu'on a une très belle ligne T2 qui traverse ici. Moi, j'ai jamais compris pourquoi. Pourquoi les contrôles de bus s'arrêtent à Patton en bas et reprennent à Cascade. Pourquoi? Donc, encore une fois, moi, je parle de zone de non-droit. Je ne parle pas que de misère sociale.
Est-ce qu'on est dans une zone de non-droit
on
ici?
On crée une zone de non-droit, oui. On crée une zone de non-droit.
Les mots sont forts. Hein.
Ah oui, c'est certes.
Non, mais en quoi on est dans une zone de non-droit?
Alors, on crée une zone de non-droit parce que, quand il y a eu les émeutes, qu'est-ce que moi j'ai reproché au préfet? Parce que j'ai été en première ligne quand le préfet est monté ici. Et je leur ai dit, mais pourquoi il n'y a pas de présence policière? Pourquoi il n'y en a pas autant que Nancy? Je dis, mais pourquoi si quelqu'un se gare mal, pourquoi il peut se garer mal sans impunité pendant des semaines, alors qu'à Nancy, pendant 2 minutes, on a une police qui s'arrête, une patrouille qui s'arrête devant ça en leur disant, mais hey, vous êtes en double fil, circulez. Est-ce que c'est pas assez Nancy ici? Voilà pourquoi je dis que c'est une zone de non-droit. C'est parce que
est-ce que l'urgence de ce quartier, c'est de verbaliser des personnes mal garées?
Est-ce que c'est
la priorité?
Alors, pas du tout. Alors, justement, non, pas du tout. Attention.
C'est peut-être pour ça que...
Non. Alors, déjà, ils ont tellement laissé faire que déjà, il faudrait pas venir et verbaliser. Moi, je pense qu'il faut, à nouveau, il faut habituer les gens à leur dire que tout ce que vous faites qui est interdit va être puni. Donc, il faut les habituer à la présence. Donc, il faut une présence. Il faut du dialogue. Il faut recommencer tout. Il faut commencer par du dialogue. Quand j'ai parlé de contrôle, j'ai pas dit que les contrôles doivent monter et tout de suite verbaliser. Non, ce serait une mauvaise idée de faire ça. Mais par contre, habituer les contrôleurs à traverser le plateau de haie sans qu'on imagine qu'ils puissent risquer pour leur vie, parce que de la violence, il y en a au centre-ville.
Il y en a plus au centre-ville qu'au Duvivre.
Bah, c'est plus facile de dire qu'il y a de la. C'est plus facile de dire qu'il y a plus de.
C'est peut-être pour ça aussi. Ouais. Par rapport à la présence policière, avant les émeutes, il y avait juste en dessous, on est voisins avec la police de quartier qu'on salue. Avant les émeutes, il y avait cette présence peut-être discrète, mais dans la mesure où c'est un quartier où il n'y a pas vraiment d'agression, il n'y a pas de crime. C'est-à-dire, est-ce que il y a une nécessité d'une présence? Et c'est une vraie question, hein, pour le coup. Est-ce qu'il y a une nécessité d'une présence policière quand on constate que la criminalité ou même les faits délictueux dans ce quartier sont minimes, voire rarissimes? Et dans d'autres zones, je pense à Place de la Croix de Bourgogne, je pense récemment à Tomblaine, où il y a eu un meurtre. Est-ce que, justement, et on sait, vraiment, on sait les difficultés que rencontre la police, que ce soit la police municipale, la police nationale, en termes d'effectifs, en termes de moyens, on sait très bien, en termes de recrutement,
exactement.
Ils sont dans le dur. Donc, aujourd'hui, quand ils constatent ça, est-ce que c'est pas légitime de se dire, bon, finalement, sur ce quartier, à part une émeute qu'il y a eu sur un an, il se passe pas. Et puis, quelques échauffourées, il se passe pas grand-chose. Donc, on va les laisser tranquilles dans la mesure où, globalement, ça fonctionne mieux qu'ailleurs.
Je serais peut-être pas totalement d'accord avec ce que vous dites, parce que, tout simplement, c'est qu'en fait, il y a trop de laisser-faire ici. Il y a trop de choses qui sont banalisées. Donc, du coup, on n'en parle pas. C'est tellement banal. Je vais vous donner un exemple personnel. Certes, j'ai grandi dans ce quartier pendant très nombreuses années, mais aujourd'hui, je n'y habite plus. Mmh. J'ai voulu donner une chance à mes enfants de voir ailleurs. J'ai eu les moyens, grâce à mon travail, de pouvoir voir ailleurs et donner une autre chance à mes enfants. Une autre opportunité de voir d'autres écoles, etc., de rencontrer d'autres gens de classes sociales totalement différentes. Et comme mes enfants à l'école où ils sont, moi, ils sont dans une école, pour moi, qui est typiquement normale parce qu'il y a de tout. Mmh.
Tout. Ça représente la France.
Ça, exactement. Mmh. Vraiment dans sa totalité. Mmh. Voilà. Une vraie école, vraiment, voilà. Mmh. Et où j'habite, dans la résidence où j'habite, ça m'a, c'est des petits détails, mais qui me surprennent tout le temps. Et j'adore prendre ces anecdotes-là. C'est que, par exemple, quand je monte dans mon ascenseur et que je vois une feuille mise par un voisin, juste parce que quelqu'un a mis ses mains, des traces de doigts, sur la glace qu'il y a dans l'ascenseur. Mais, ou bien que le voisin toque à la porte d'un autre voisin pour leur dire, s'il vous plaît, pouvez descendre votre poubelle, ne la laissez pas ici, s'il vous plaît. Eh bien, au Dulef, c'est juste inconcevable de voir ce genre de choses. Il y a de l'urine dans les ascenseurs, les escaliers sont très sales, très peu de personnes, les gens signalent, mais très peu en même temps signalent, et je vais faire même un rapprochement à ce que vous avez dit. Vous savez, on a parlé avec le préfet, et vous savez ce qu'il a fait comme remarque ? Que peu de gens appelaient la police parce qu'il y avait des problèmes ici. C'est-à-dire que, en fait, les gens, quand ils voient des choses, ils appellent, ils n'ont plus besoin de la
police. Ce sont des problèmes qui nécessitent d'appeler la police.
Oui, exactement. C'est des problèmes qui nécessitent d'appeler la police et ils ne les appellent pas. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de problème ? Mais non. Ça veut dire que les gens, en fait, ils ont banalisé ça. C'est normal. C'est devenu leur quotidien. Ça les choque pas.
Après, au lieu de la police, est-ce qu'on pourrait pas faire de la médiation sociale? Parce que déplacer la police parce que quelqu'un a fait pipi dans l'ascenseur, je pense que, au vu du contexte de la police,
d'accord.
C'est peut-être pas l'urgence
d'accord.
absolue. Ouais.
Mais c'est là que c'est un grand chantier, en fait.
Peut-être la médiation sociale qui manque.
Ils n'ont pas la police. Apparemment, ils ont mis des médiateurs. Je les ai pas encore rencontrés.
On les a rencontrés.
Ouais. Moi, j'aimerais bien les rencontrer. Je les ai pas encore rencontrés. Je demanderai au président de faire le nécessaire là-dessus pour qu'on puisse les rencontrer. Mais.
Ils sont à côté à la tour de l'énergie notamment, il y en a d'autres.
Oui, ouais. mais justement, c'est là qu'on voit que c'est un grand chantier, parce qu'on parlait des pipis, etc. Mais moi dans ma petite résidence où il y a 1, 2, 3, 4, il y a 6 appartements, on a un concierge. C'est payé dans les charges. Mais tant mieux, on est content d'avoir ce concierge-là, parce qu'il fait le travail. La moindre incivilité, il vient, il dit, voilà, s'il vous plaît, faites ci. Et ça passe très très bien, et les gens comprennent. Les gens comprennent. On a des immeubles juste derrière nous, là, de 15 étages ou de 13 étages.
Voire plus, des fois.
D'accord. Avec sûrement une cinquantaine d'appartements par entrée. Et on n'a pas. Et on a un gardien pour tout l'immeuble. Donc 50 fois 15 entrées. Vous vous rendez compte le boulot, le pauvre gardien ? Mais je comprends qu'il rase les murs.
Alors, quelle solution alors s'offre pour pouvoir justement faire ce travail de médiation, de concierge, sachant qu'on est dans un quartier où beaucoup de personnes n'ont pas les moyens de payer plus de charges. Donc, qu'est-ce qu'il y a à mettre en œuvre pour arriver à des solutions comme ça ?
Ce qui est marrant, c'est que les gens nous disent qu'en fait, ils n'en ont rien à envier aux autres par rapport aux charges ou à leur loyer, parce qu'ils trouvent qu'ils sont très très chers même. Ils sont déjà chers.
Donc on peut pas aller rajouter encore des charges.
Alors ça ferait peut-être, bien sûr, ça ferait peut-être beaucoup pour eux, mais moi j'arrive pas à concevoir que quand on ramène des personnes totalement différentes ou qu'il y a des personnes qui sont désœuvrées socialement. Je le dis pas dans le sens péjoratif.
Oui,
du terme.
Les plus affaiblis par la société, par la vie, bien sûr.
Et on doit pas les abandonner, ces gens-là. Ils ont le droit d'exister, ils ont le droit d'avoir un logement, ils ont le droit, mais on peut pas les laisser comme ça.
Mais quelle proposition on peut faire justement pour les soutenir ?
Il faut qu'on puisse travailler. Moi, je souhaiterais qu'on puisse travailler. Moi, pour moi, qu'il y ait des gardiens, un gardien par entrée.
Mais qui va rémunérer en fait finalement ? Qui payera
Écoutez, franchement, dans une entrée où il y a 50 logements et qu'on doit payer une personne. Vous pensez que ça ferait beaucoup, contrairement à une entrée où il y a 6 logements en charge ? Je pense qu'à mon avis, je pense que beaucoup de gens ici seraient prêts à mettre, allez, je sais pas combien ça représente, je suis pas très fort en gestion là-dessus, mais ils seraient prêts à mettre une participation, mais pour avoir un confort. Voilà. Vous savez que il y a aussi des gens qui veulent habiter ailleurs, mais qu'ils n'ont pas les moyens d'habiter ailleurs. Et c'est là que je ne comprends pas qu'on dise que c'est cher.
Les loyers augmentent en plus.
Bah oui. Les prix de Rive-de-Meurthe, je vous assure, ce n'est pas les mêmes qu'ici. Mon loyer, ce n'est pas ce que je payais avant. Bon, bien sûr, donc on fait des concessions. Mais voilà. Mais il y a un confort derrière. Voilà, il y a un confort derrière. Et moi, je pense que le confort, ça ne doit pas être une option. Ça doit être un droit. Le confort de l'environnement. Voilà, je trouve que ça doit être un droit.
Ok, très bien, merci beaucoup. On va s'octroyer une petite pause musicale en écoutant un morceau qui porte bien son nom, c'est le morceau La vie de quartier de Coma featuring Morad.
Quartier rude, plein de turpitude. Du microphone j'use pour garder bonne attitude. On me coupe les ailes pour ne pas prendre d'altitude. Dur de s'imposer quand on a de sales habitudes. La vie de quartier rude, pleine de turpitude. Du microphone j'use pour garder bonne attitude. On me coupe les ailes pour ne pas prendre d'altitude. Dur de s'imposer quand on a de sales habitudes. Quel héritage léguerons-nous à nos enfants? Est-ce la notion de partage ou celle de l'argent sans faire de sentiments? Peser le pour et le contre, la montre au poignet. Serais-je à l'heure? Si j'y suis pas, que pourrait-il se passer? J'ai beau réfléchir, repartir sur de mauvaises bases. La France m'a trahi, partout je passe pour un kamikaze. Un fouteur de merde, un casseur de vitrine. Un jeune fou qui s'identifie à Al Capone ou Mesrine. Une fouine, un réel danger, c'est toi qu'a commencé. Si tu me voulais pas, fallait pas m'abatter. Me faire miroiter, la réussite. Que me laisses-tu comme choix? Si ce n'est celui de prendre la fuite vite. Avant qu'il ne soit trop tard, avant que tu ne comptes un nouveau ouf dans les rangs de baisse-bas. La vie de quartier rude, pleine de turpitude. Du microphone juste pour garder bonne attitude. On me coupe les ailes pour ne pas prendre d'altitude. Dur de s'imposer quand on a de sales habitudes. La vie de quartier rude, pleine de turpitude. Du microphone juste pour garder bonne attitude. On me coupe les ailes pour ne pas prendre d'altitude. Dur de s'imposer quand on a de sales habitudes. Un héritage à l'image d'une vie ratée, pleine de virages et puis surtout de routes barrées. De l'argent sale pour acheter police et douaniers. Pour aller vers ses rêves ici faut payer cher son ticket. Un démarrage dans la vie quelque peu foiré. Un dérapage puis la rage qui s'est emparée. Des esprits comme un butin sans vote et sans scrutin. Ne nous laissant le soir que les trottoirs comme des putains. Les mots fusent à l'affût des clichés qu'on diffuse. Du microphone juste quand la France m'attaque et m'accuse. La vie de quartier rude pleine de turpitude. Du microphone juste pour garder bonne attitude. On me coupe les ailes pour ne pas prendre d'altitude. Dur de s'imposer quand on a de sales habitudes. La vie de quartier rude, pleine de turpitude. Du microphone juste pour garder bonne attitude. On me coupe les ailes pour ne pas prendre d'altitude. Dur de s'imposer quand on a de sales habitudes. Beaucoup se sont succédés sans laisser de traces. Les plus lucides ont péri malgré tout leur tour de passe-passe. Que reste-t-il vraiment? L'incertitude, fléau stagnant. L'éducation forme des ignorants. Aux ordres d'un despote sans visage. Dieu est grand, puisse-t-il nous écarter du mauvais présage ambiant. L'œuvre du malfaisant, devant les pièges qui nous sont tendus. On a beau dire, on n'est jamais assez prudent, assez méfiant. Pour contourner l'obstacle, assez présent. Pour ne pas faire partie du spectacle. Certes, la vie nous réserve de nombreuses surprises. Mais c'est souvent dans nos ressources qu'ils puissent à leur guise. On frise le ridicule. Le monde est contrôlé, orienté par des gens sans scrupules. Au crépuscule du 21e siècle, la boucle est bâclée, on est prisonnier du plus vicieux des cercles. La vie de quartier rude, pleine de turpitude. Du microphone juste pour garder bonne attitude. On me coupe les ailes pour ne pas prendre d'altitude. Dur de s'imposer quand on a de sales habitudes. La vie de quartier rude, pleine de turpitude. Du microphone juste pour garder bonne attitude. On me coupe les ailes pour ne pas prendre d'altitude. Dur de s'imposer quand on a de sales habitudes.
Dans un pays qui fait de moi un pénalisé, un mauvais partant, celui sur qui personne va miser. J'ai décidé de démonter les stéréotypes. Place à la réalité, la vérité n'est pas dans les clips.
Je reste ici en sachant que c'est déjà tricard. Je vois jamais le soleil, mec. Je me crois au mitard, du tiécar au placard. Un parcours étudié pour détruire le peu d'amour qu'il reste au fond du cœur des lascars. Lascars, dis-toi qu'ici personne ne t'écoute. Tu peux raconter ton histoire, dis-toi qu'on les connaît toutes. Je reste ici en sachant que c'est déjà tricard. Appuyé sur un banc, crachant des molars sur le trottoir. Dans un pays qui fait de moi un pénalisé. Le premier visé, avisé qu'il est déjà trop tard.
La vie de quartier rude, pleine de turpitude. Du microphone j'use pour garder bonne attitude. On me coupe les ailes pour ne pas prendre d'altitude. Dur de s'imposer quand on a de sales habitudes. La vie de quartier rude, pleine de turpitude. Du microphone j'use pour garder bonne attitude. On me coupe les ailes pour ne pas prendre d'altitude. Dur de s'imposer quand on a de sales habitudes.
13h, 14h, dialectique sur RCN, Lionel Courchinou.
Et on est toujours en direct sur RCN 90.7, on parle de l'atelier Vide Quartier, on parle de ce beau quartier qui est le Haut du Lièvre, le plateau de Haye, et je suis toujours avec toi. Donc tu nous parlais de la vie dans ce quartier, des soucis qu'on peut rencontrer. Comment les habitants du plateau sont encouragés à s'impliquer dans les décisions, par exemple, qui concernent le quartier, dans la vie quotidienne? Est-ce que vous arrivez à les impliquer, à les inciter à ça?
Sincèrement, c'est très très compliqué. C'est effectivement, c'est vraiment vraiment très compliqué. En fait, ce qui se passe, c'est que, et ce que je regrette, mais bon, malheureusement, les gens, quand ils sont désabusés, ben, c'est compliqué de les remettre, ils y croivent plus. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle, sur le plateau de Haye, les votes ne sont pas très très importants par rapport à la population qui est là, qui est assez dense. Et bah voilà, c'est pour ça, c'est parce qu'en fait, on a du mal à les impliquer, on a du mal à leur dire, certes, vous venez, vous nous faites remonter vos problématiques, certes, on va les porter jusqu'à la plus haute instance, jusqu'au maire, jusqu'au président de la métropole, pour que vous soyez entendus, mais c'est compliqué pour nous de porter votre parole. C'est compliqué parce qu'on a comme cette impression qu'on en rajoute, et donc les gens, on a du mal à les faire venir. Mmh. Et pour ceux qu'on arrive à faire venir, eh bien, elles sont peu, mais il n'y a pas véritablement de résultats ou d'entente par rapport à leurs demandes. Je regrette beaucoup de choses sur le logement, par exemple, ici. Bon, certes, maintenant, ils vont sûrement avoir des appartements flambants neufs, avec le tilleul et cèdre bleu qui est en rénovation, mais il faut savoir une chose, il y a des immeubles qu'ils ont à peine 10 ans ici sur le quartier, et on a eu plusieurs appartements qui étaient assez délabrés, et moi, je trouve dommage qu'un patrimoine aussi magnifique qu'il est ici soit abîmé très très rapidement en moins de 10 ans et que on mette pas les moyens pour en prendre soin, même si il y a des locataires qui dégradent les appartements. Je trouve que les futurs, ceux qui reprennent derrière, ne doivent pas subir la dégradation.
Parce qu'on parle beaucoup des aspects négatifs, est-ce qu'il y a des aspects positifs chez les habitants de ce quartier?
Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, leur richesse, leur savoir, ils savent beaucoup de choses. Ils sont pas bêtes. Il y a beaucoup de groupes dans les associations, et moi j'ai envie de rendre hommage à toutes les associations qui sont sur le plateau de Haye, en l'occurrence les Francas, la MJC qui renaît de ses cendres à nouveau parce qu'elle a connu des difficultés très récemment, et grâce à la nouvelle direction et au nouveau président à qui je rends hommage, qui a envie de faire un travail magnifique. Donc, voilà les points positifs. Parce qu'en plus, ils font des fois très souvent avec des moyens qui sont assez réduits, parce que la conjoncture, on la connaît tous, tout est au rabais. Mais malheureusement, nos enfants, ils sont force de proposition. Et puis, quand on est force de proposition, forcément, il faut y mettre les moyens, et très souvent ce sont des moyens financiers, même s'ils savent faire beaucoup de choses avec très peu de moyens. Très souvent les finances sont aussi importantes.
J'allais demander, est-ce que la vie des habitants de quartier, que ce soit les enfants comme tu mentionnes, les parents, est-ce que cet avis-là il est pris en compte aussi, parce que il y a ce que les personnes vivent au quotidien, ce qu'elles ressentent, il y a leur volonté, et est-ce que vous, parce que tu pointais du doigt le manque de communication avec les autorités municipales notamment, est-ce que vous arrivez à faire le liant justement, à transmettre, déjà à recueillir ces avis-là, et ensuite à les transmettre aux autorités locales.
Mais on le fait, c'est ce qu'on fait tous les jours. Et par exemple, les difficultés qu'ont connues la MJC, ils n'avaient pas besoin qu'on leur dise nous. Ils le savaient également en direct avec la structure. Donc bien sûr qu'ils connaissent ces problèmes. Ils les connaissent véritablement. Maintenant, c'est dans la manière de régler les problèmes qui divergent ou lesquels on peut avoir des désaccords. Et vous savez, moi, surtout dans l'association, moi, je trouve que les associations, depuis le départ d'André Rossino, sont un petit peu en déclin. Pourquoi ? Parce que André Rossino était quelqu'un qui aimait énormément les associations. Il faisait énormément pour les associations. Il tenait énormément la MJC du Haut-du-Lièvre. Donc, il y donnait les moyens, et c'était des moyens financiers forts pour dire qu'on vous soutient. Donc, et puis après, il fallait qu'il y ait quelqu'un en face. Donc, c'était une pression aussi pour nous en tant qu'administrateurs à l'époque, parce que il nous témoignait de son... il nous témoignait de sa volonté à vouloir nous aider. Et donc du coup, on avait quand même grand sur les épaules.
Il y avait une confiance.
Et voilà, une énorme confiance. Énorme confiance. Donc, et par exemple, pour vous citer, donc, il aimait les associations, il aimait les médecins. Aujourd'hui, les médecins sur le plateau de Haye, c'est une catastrophe. Les médecins partent en retraite, ils ont du mal à trouver des médecins.
Qu'est-ce qui bloque ?
Ben, qu'est-ce qui bloque tout ce qu'on a dit au préalable.
C'est ça
c'est une ambiance. C'est une ambiance, c'est se dire, les jeunes médecins se disent qu'on ne va peut-être pas réussir à vivre. Ce qui est bien sur les médecins qui sont anciens et qui sont là, c'est qu'ils aiment aussi bien leur quartier que les habitants eux-mêmes aiment le quartier. Donc ils s'investissent. Mais là, on voit que là, notre première perte, la prochaine perte, en plus de ce qu'on a déjà eu comme perte, bah, ça va être les médecins. Et puis, quand je vois que la politique actuelle qui a envie d'être menée par exemple, le maire actuel, c'est de vouloir ramener, par exemple, une entreprise où qu'ils auront des médecins salariés, un groupe. Oui. Et nous, c'est pas ça. Et les médecins, donc, ils veulent pas de ça. Et puis, nous aussi, on n'est pas à l'aise avec ça. On avait une proximité avec ces médecins. On veut pas des salariés. C'est des médecins, ils vivent
médecins
en direct. Des médecins de quartier. Moi, je trouve que c'est... quand quelque chose marche bien, il faut le laisser. Faut pas essayer de découvrir autre chose. Et puis, de toute façon, tout devient financier en fait.
On libéralise
voilà,
un peu
exact,
tout.
Voilà. Et moi ça, bon ben voilà. Et ça met un froid quand même.
Il y a un point aussi important que je voulais aborder avec toi. Tu me diras votre regard avec l'atelier Vie de Quartier, c'est par rapport à la réputation de ce quartier. On a vu des évolutions, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un quartier finalement où il n'y a pas tellement de crimes, même si toi tu pointes du doigt une violence symbolique. Voilà, mais c'est un quartier, c'est-à-dire quand on est originaire de ce quartier, qu'on sort du quartier, qu'on va se confronter à d'autres classes sociales, d'autres populations, eh bien parfois on nous renvoie cette réputation du quartier, et même peut-être pour les jeunes qui cherchent des stages, ça aussi doit... Oui. Alors qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, et quelles armes sont à notre disposition pour aller au-delà de cette réputation et redonner en fait une image correcte à ce quartier ?
Le bon début d'une réputation pour ce quartier, c'était la rénovation du plateau des. Ça aurait pu être une nouvelle page tournée.
Le NPNRU, ouais, exactement. Le plan en rue 1, en tout cas.
Ça donne une chance, ça. C'est-à-dire, on tourne une page sur des vieux bâtisses, et puis on rénove tout, et puis il y a des nouveaux qui arrivent, etc. Mais s'il n'y a que ça qui change, et que la politique derrière ne change pas aussi les accessoires qui entourent tout ça, eh ben, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas se matcher. Il faut savoir aussi que les commerces actuels qu'on a là, mais les pauvres commerçants, demandez-leur. Je vous aurais bien dit d'inviter le président qui a perdu...
Ça sera pour une prochaine émission.
Voilà, le président des commerces qui était l'opticien qui a perdu son magasin suite aux émeutes et qui ne reviendra pas malheureusement. Eh bien, c'est ces personnes-là qui vous s'y prendre à témoin. Et vous verrez qu'en fait, on rentre tous dans la même lignée. On a besoin... Moi, j'envie le quartier Champ-le-Bœuf. Parce que aujourd'hui, nos habitants, quand ils veulent faire quelques petites courses, eh ben, ils montent au Champ-le-Bœuf. Parce que c'est attractif. Action, Jiffy, des grandes structures qui appellent, en fait, avoir.
Mais même sur le petit commerce aujourd'hui, est-ce que aussi justement ce plan-là de restructuration, ça n'a pas détruit tout un écosystème? Parce que moi je me rappelle, il y a une quinzaine d'années, on avait les tamaris, les ombelles, et des habitations tout autour avec des personnes qui viennent.
Exactement.
Payer leurs légumes, leurs fruits, leurs marchandises, et finalement faire tourner ce business et faire tourner l'écosystème pour les commerçants aujourd'hui, c'est un peu plus difficile.
Mais bien sûr que c'est difficile. Mais oui, on le voit bien. Et aujourd'hui, les plus récalcitrants, ils essayent de tenir. Vous voyez bien.
On les salue d'ailleurs, il y en a qui nous écoutent.
Exactement. L'auto-école, on en avait. Vous rendez compte, l'auto-école Toulon, combien d'années ils étaient ici? Je trouve que c'est triste. Monsieur Toulon, même si paix à son âme, et que il a laissé ses enfants, ils sont jeunes ses enfants. Et puis peut-être que les enfants de ses enfants, peut-être ils auraient aussi repris. Mais qu'est-ce qui fait qu'une entreprise qui a plus de 40 ans dans le quartier part? Je vous pose la question. Et puis là, voilà. Et puis on a répondu à tout en fait. Et on voit bien que ça, c'est en déclin. Et ça n'étonne personne. En fait, c'est pas grave, s'il n'y a pas d'auto-école, ils iront à celle qui est en bas, près de la fac, etc. Mais bon, moi je trouve que c'est ça qui est triste.
Alors, pour terminer l'émission, je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce qu'il y a un message que tu souhaites faire passer au nom de l'atelier Vie de Quartier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur qu'on va diffuser, nous, relayer auprès des autorités, par exemple, qui nous écoutent, et auprès des habitants aussi?
Moi, le mot de la fin... Et ce que je dirais, nous sommes, en tout cas l'atelier de Vie de Quartier, et je l'avais dit aussi à Laurent Hénard quand on a discuté avec lui, je dis que nous on n'a pas d'étiquette politique. Voilà, on n'a aucune étiquette politique. Notre étiquette politique c'est quoi? C'est notre bien vivre. C'est le vivre ensemble. C'est d'avoir un environnement sain, heureux, que les gens soient heureux mais dans un environnement sain, dans un beau quartier, avec de la sécurité. Voilà. Et un avenir pour nos enfants, c'est-à-dire qu'ils ne galèrent pas ne serait-ce qu'à trouver un stage ou qu'on n'est pas rémunéré. Donc vous vous rendez compte les messages que nos enfants qu'ils imprennent dans leur tête pour leur dire demain il va falloir que tu cherches du travail alors que tu n'arrives même pas à trouver un stage pour 15 jours. C'est dur. C'est dur à expliquer ça à nos enfants. Moi le message de la fin c'est de dire, moi je fais un appel à tous les élus de tous bords et qu'on va sûrement donc recevoir un par un pour discuter avec eux. C'est de réfléchir avec nous sur une véritable politique en lien social dans ce quartier. Une vraie politique de sécuritaire. Sécuritaire, avec du travail pour nos enfants. Et puis, vous avez bien vu récemment encore les écoles qui ferment. Enfin bref, vous avez vu, c'est un enchaînement qui arrive et qui sont très négatifs pour le quartier. Et on voudrait donc reconstruire ce quartier et profiter du PLRU pour quelque chose de nouveau dans toute sa forme. Et je vous remercie en tout cas de votre invitation.
Merci Larbi d'avoir accepté cette invitation. On va se quitter avec un morceau qui pour moi est emblématique de toutes les cités de France. C'est vraiment l'hymne des cités. C'est le morceau de Kerry James, Banlieusard.
Banlieusard, Kerry James.
Voilà le chant des combattants, banlieusards et fiers de l'être. J'ai écrit l'hymne des battants, ceux qui ne font pas toujours ce qu'on attend. Deux, qui ne disent pas toujours ce que l'on veut entendre. Deux, parce que la vie est un combat. Pour ceux d'en haut comme pour ceux d'en bas. Si t'acceptes pas ça, c'est que t'es qu'un lâche. Lève-toi et marche, c'est un pour les miens. Arabes et noirs pour la plupart et pour mes bactous. Prolétaires et banlieusards, le deux. Ceux qui rêvent d'une France unifiée, car à ce jour il y a de France qui peut nier. Et moi je suis de la deuxième France, celle de l'insécurité, des terroristes potentiels, des assistés. C'est ce qu'ils attendent de nous, mais j'ai d'autres projets qui nous retiennent ça. Je suis pas une victime mais un soldat, regarde-moi. Je suis noir et fier de l'être, je manie la langue de Molière. J'en maîtrise les lettres, français parce que la France a colonisé mes ancêtres. Mais mon esprit est libre et mon Afrique n'a aucune dette. Je suis parti de loin, les pieds entravés, le système ne m'a rien donné. J'ai dû le braver,
depuis la ligne de départ. Ils ont piégé ma course pendant que les keufs me coursaient. Eux investissaient en bourse. J'étais censé échouer, finir troué, la peau trouée. Et si j'en parle la gorge nouée, c'est que j'ai nagé dans des eaux profondes sans bouée. J'ai le ghetto tatoué dans la peau, je repelle comme écoué. Mais l'espoir ne m'a jamais quitté. En attendant des jours meilleurs, j'ai résisté et je continue encore. Je suis le capitaine dans le bateau de mes efforts. Je n'attends rien du système, je suis un indépendant. J'aspire à être un gagnant, tous les perdants. Parce qu'on vient de la banlieue, c'est vrai qu'on a grandi, non. Les yeux dans les bleus, mais des bleus dans les yeux. Pourquoi nous dans les ghettos, eux à l'ENA, nous derrière les barreaux. Eux au Sénat, ils défendent leurs intérêts et le de nos problèmes. Mais une question reste en suspens, qu'a-t-on fait pour nous-mêmes? Qu'a-t-on fait pour protéger les nôtres des mêmes erreurs que les nôtres? Regarde ce que deviennent nos petits frères. D'abord c'est l'échec scolaire, l'exclusion donc la colère, la violence et les civières, la prison et le cimetière. On n'est pas condamné à l'échec. Pour nous c'est dur, mais ça ne doit pas devenir un prétexte. Si le savoir est une arme, soyons armés. Car sans lui nous sommes désarmés. Malgré les déceptions et les dépressions, suite à la pression que chacun d'entre nous ressent. Malgré la répression et les oppressions, les discriminations, puis les arrestations. Malgré les provocations, les incarcérations, le manque de compréhension, les peurs et les pulsions, leur désir de nous maintenir la tête sous l'eau transcende ma motivation, nourrit mon ambition. Que la deuxième France s'éveille. J'ai envie d'être plus direct. Il est temps qu'on fasse de l'oseille. Ce que la France ne nous donne pas, on va lui prendre. Je veux pas brûler des voitures, je veux en construire puis en vendre. Si on est livré à nous-mêmes, le combat faut qu'on livre nous-mêmes. Il suffit pas de chanter, regarde comme ils nous malmènent. Il faut que t'apprennes, que tu comprennes et que t'entreprennes. Avant de crier, c'est pas la peine. Quoi qu'il advienne, le système nous freine. À toi de voir, t'es un lâche ou un soldat. Entreprends et bats-toi. Banlieue, ça arrive fier de l'être. On n'est pas condamné à l'échec. Diplômé, éclairé ou paumé, en 4x4 entromé, gentil ou chômé. La banlieue a trop chômé. Je sais ce que la France promet et que c'est un crime contre notre avenir que la France commet. C'est pour les discriminés, souvent incriminés, les innocents qui traitent comme de vrais criminels. On a l'image de prédateurs, mais on n'est que des proies capables. Les coupables, exclus de l'emploi. Si je rougis comme un lion, c'est que je compte pas me laisser faire. Je suis pas un mendiant, je veux prendre ce qu'ils m'ont promis hier. Même s'il me faut deux fois plus de courage, deux fois plus de rage. Car il y a deux fois plus d'obstacles et deux fois moins d'avantages. Et alors, ma victoire aura deux fois plus de coups. Avant de pouvoir la savourer, je prendrai deux fois plus de coups. Les pièges sont nombreux, il faut que je sois deux fois plus attentif, deux fois plus qualifié, deux fois plus motivé. Si t'aimes pleurer sur ton sort, t'es qu'un lâche. Lève-toi et marche. Banlieusard et fier de l'être. On n'est pas condamné à l'échec. On est condamné à réussir, à franchir les barrières, construire des carrières. Regarde ce qu'ont accompli nos parents, ce qu'ils ont subi pour qu'on accède à l'éducation. Où serait-on sans leurs sacrifices comme Mahmoud Bortaïs? Bien sûr que le travail a du mérite. Combien j'admire nos pères, manutentionnaires mais fiers. Si on gâche tout, où est le respect? Si on échoue, où est le progrès? Chaque fils d'immigré est en mission. Chaque fils de pauvre doit avoir de l'ambition. Tu peux pas laisser s'évaporer tes rêves en fumée. Dans un hall en fumée, à fumer des substances qui brisent ta volonté. Anesthésie tes désirs et noie tes capacités. Hey, on vaut mieux que ça. Rien n'arrête un bon lézard qui se bat. On est jeune, fort et nos sœurs sont belles. Immense est le talent qu'elles portent en elles. Vois-tu des faibles ici? Je ne vois que des hommes qui portent le glaive ici. Bon lézard est fier de l'être. On n'est pas condamné à l'échec. Ce texte je vous le devais. Même si je l'écris le cœur serré. Et si tu pleures, pleure des larmes de détermination. Car ceci n'est pas une plainte, c'est une révolution.